Bonjour tout le monde, ici Naïma Assert. Aujourd'hui, je rencontre Marie-Ève Paradis, une journaliste qui a fait un séjour au Groenland. Elle va pouvoir jeter un regard pour nous sur cette terre mythique. Alors, bonjour Marie-Ève.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, merci.
Donc, premièrement, qu'est-ce qui t'a amenée au Groenland?
Bien, en fait, j'ai fait une demande de bourse en journalisme des Instituts de recherche en santé du Canada pour faire un reportage sur les professionnels de la santé au Nunavik et au Groenland. Donc, en obtenant cette bourse-là, j'ai pu donc aller au Nunavik et au Groenland.
Ça a dû être fascinant comme voyage.
Oui, en fait, le Groenland est une terre qu'on peut penser de glace, mais au contraire, c'est vraiment une société qui est très organisée. Il y a 57 000 personnes qui habitent l'île. C'est quand même la plus grande île au monde, si on compte pas l'Australie, qui est un continent. C'est vraiment immense comme territoire, pour une très petite population, évidemment. Mais toute la population reste sur les côtes du Groenland, et ça permet de voir, là, finalement, des paysages magnifiques de fjords et de glace, finalement. Mais c'est quand même, faut pas oublier que Greenland, c'est vert. Donc, notamment dans le sud du Groenland, c'est un endroit où on fait de l'agriculture, où il y a des fermes de moutons, mais des grosses fermes de moutons, de 600, 700, 1000 moutons. C'est vraiment pour détruire toutes les pensées préconçues qu'on peut avoir, là, c'est d'aller dans le sud du Groenland où il y a vraiment une agriculture, il y a de la vie. C'est pas juste des chiens de traîneau, de la glace, de la pêche sur glace. C'est vraiment pas ça dans le sud du Groenland.
Donc toi, t'es surtout passé du temps dans le sud?
Oui, c'est ça. Puis comme c'était l'été, ben c'était vraiment vert, c'était magnifique. Le nord du Groenland l'été est aussi est moins vert, mais c'est aussi il y a pas de glace à l'année sur les côtes. Par contre, aussitôt qu'on entre à l'intérieur de l'île, ben là c'est sûr que c'est la calotte glaciaire, donc qui est là à l'année.
Donc, tu disais que c'était moderne comme civilisation, c'est ça? Peux-tu donner des exemples?
Ben oui, c'est très moderne parce que l'île appartient au Danemark, donc ça fait partie du royaume du Danemark. Dans les épiceries, il y a du pain européen, les cafés, il y a des cafés Internet où on peut avoir accès à Internet, comme ici à Montréal. Les gens sont très branchés, malgré qu'Internet coûte très cher là-bas, parce que c'est il faut payer au mégabyte. Donc, il faut payer à la consommation. Donc, ce qui rend la chose très chère. Mais c'est la même chose dans le nord du Québec. Au Nunavik, à Koudjouak, ou les autres petits villages du Nunavik, c'est ça aussi. Parce que les câbles sont pas encore de haute vitesse, sont pas encore arrivés. Donc, c'est souvent Internet par satellite. Malgré qu'au Groenland, là, maintenant, c'est relié par câble, c'est quand même par consommation. Donc, il y a ça, mais les gens ont la télé, ils sont très, très modernes, malgré qu'ils conservent un mode de vie ou une culture plutôt traditionnelle, inuite. Donc, ils conservent l'importance, par exemple, d'aller chasser ou d'aller pêcher pour mettre de la nourriture sur leur table.
Et de quoi vivent-ils, les gens?
Mais les gens, en majorité, vont vivre des commerces, en ville surtout. Ils vont vivre des services gouvernementaux, ils vont travailler dans les services gouvernementaux. De plus en plus, il y a de l'exploitation, de l'exploration, je dirais, et de l'exploitation minière, gazière et pétrolière. De plus en plus, c'est très en vogue au Groenland, comme dans le nord du Québec. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de comparaisons à faire entre le Groenland et le nord du Québec. Puis ça, là, c'est vraiment, vraiment passionnant quand on s'y arrête puis on se rend compte à quel point on est si près puis on s'en intéresse tellement peu, mais c'est vraiment fascinant.
Et par rapport à la température, est-ce que c'est facile de vivre là-bas?
Bien, la température, c'est pendant l'été, ce qu'on vit à peu près à la mi-octobre. Donc, il fait 8-10 degrés. soleil la majorité du temps, mais avec des grosses périodes de pluie qui peuvent durer jusqu'à une semaine, comme on a là, finalement octobre-novembre ici. Par contre, je me suis fait dire que le meilleur temps pour aller visiter, c'est à l'automne ou au début d'automne. Donc, il y a moins de pluie et beaucoup plus de soleil, mais c'est un peu plus frais, donc plus vers les 5 degrés. C'est quand même... j'arrivais de Montréal où il faisait très chaud, on est arrivé là-bas. Ça n'a pas été un gros choc tant que ça, juste avec un manteau, on s'habitue rapidement. On s'en rend pas vraiment compte. Puis c'est quand je suis retournée à Montréal que là j'ai réalisé, ah, il faisait vraiment froid là-bas finalement. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que au Groenland, l'éclairage est très différent. Donc pendant l'été, on a le soleil de minuit. Donc il fait tard, il fait clair jusqu'à minuit. Puis il y a quelques heures à peine de noirceur. Après 2 ou 3 heures de noirceur complète. Si plus on va au nord, plus il n'y a pas de noirceur pendant l'été. Au contraire, pendant l'hiver, les gens me disaient que Anouk, qui est la capitale, il faisait noir à partir de 2 heures l'après-midi. donc, il faisait noir très tôt, mais qu'il faisait quand même... il y avait quelques heures d'ensoleillement, là, mais vraiment entre 8 heures et midi, là, qu'il y avait vraiment un soleil ou un éclairage quelconque. Mais ça peut être très difficile pour les gens qui ont besoin de lumière, par exemple. J'ai été surprise d'une chose. Les gens m'ont dit que l'hiver, à Nuuk, la capitale, fait moins 20 l'hiver.
Ah,
oui. Oui, il fait pas plus froid que ça. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment... En fait, les gens disaient qu'il fait moins froid qu'au Canada. Donc, parce que à cause du Gulf Stream qui passe tout près du Groenland, sur les côtes, il fait jamais très froid. C'est sûr que si on entre... Plus on entre près du glacier, plus il fait froid, évidemment. Mais il fait pas si froid ça l'hiver. Donc, c'est un mythe, encore une fois, de penser qu'il fait très, très froid l'hiver. En fait, il fait beaucoup moins froid qu'à Coujouac, par exemple.
Et tu disais que les gens vivaient tous sur les côtes. Dans le milieu, c'est un glacier, c'est ça?
Oui, en fait, dans le milieu, c'est la Kellogg glaciaire qui a fait les manchettes dans les derniers mois pour son activité. Oui, elle fond de plus en plus rapidement. Donc, ça inquiète énormément les Groenlandais de savoir que, parce qu'ils voient des impacts très précis, très concrets, de la fonte de la calotte glaciaire, par exemple sur les troupeaux de les mammifères marins, les baleines, les phoques, qui sont leur nourriture principale, surtout au nord. Donc ils voient que comme ça fond plus rapidement, il y a de l'eau chaude plus rapidement dans les qui descend des glaciers, et ça encourage la formation d'algues plus rapidement. Donc, les mammifères marins vont aller manger. Ils vont de plus en plus au nord, finalement, pour aller manger ce qu'ils ont besoin, parce qu'ils peuvent y aller de plus en plus au nord. Donc, les troupeaux de mammifères marins se déplacent vers le nord. Et il y a des endroits où des villages qui ont été établis parce que c'était près des phoques, par exemple. Ben, ces villages-là, il n'y a plus de phoques autour, les chasseurs crèvent de faim, je dirais, sans nécessairement passer, tomber dans le misérabilisme, mais tu sais, ils cherchent à manger, puis il y a beaucoup d'exodes, finalement, de ces villages.
J'ai entendu parler aussi que les pêcheurs, leur mode de pêche a changé, non?
Oui, tout à fait. Pardon. Le mode de pêche a en fait beaucoup changé, notamment avec la technologie, mais aussi justement à cause des bancs de poissons qui se modifient beaucoup dans les dernières années à cause des changements climatiques. Donc ça, c'est définitif que le Groenland ressent des impacts, des conséquences du changement climatique. Ça les inquiète beaucoup, d'une part. Mais d'autre part, il y en a beaucoup qui disent « Ouais, mais c'est cyclique, pendant les Vikings, il y a eu ce même réchauffement-là, puis ensuite, il y a eu un refroidissement, une espèce de petite ère glaciaire qui a fait fuir les Vikings. Donc, il y en a encore qui espèrent penser que c'est que cyclique puis que ça va revenir. Mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus alarmistes. Je dirais la majorité sont beaucoup plus alarmistes, par contre.
Et pour ce qui est des jeunes, leur éducation et tout, comment ça fonctionne? Est-ce que tu as pu observer ça un petit peu?
Oui. Donc, ces jeunes-là vont passer à travers l'école primaire, ensuite vont aller à l'école secondaire jusqu'à 16 ans. Ensuite, ils appellent ça le gymnasium, qui est un peu l'équivalent du cégep, finalement, mais qui commence une année plus tôt. Donc, à 16 ans, ils commencent le gymnasium juste pour 3 ans. Puis ensuite, ils peuvent aller à l'université. L'école primaire et secondaire, il y en a dans la majorité des villages. Mais il y a souvent... pour les écoles primaires, c'est dans tous les petits villages. Il y a toujours... puis même dans les petits, ils appellent ça des settlements, donc les petits de 100 personnes et moins. Il y a toujours quelqu'un qui va faire l'école aux petits, tout ça. Mais quand ils ont besoin d'aller à l'école secondaire, par exemple, ou même aux primaires, mais à des niveaux plus hauts, après la quatrième année, ils doivent devenir pensionnaires. Donc, ils s'en vont dans une autre ville, village, pour étudier. Donc, ils deviennent pensionnaires pendant la semaine et retournent à la maison pour la fin de semaine. Ensuite, les gymnasiums, il y en a comme 5 ou 6 dans tout le Groenland. Donc, à partir de 16 ans, c'est évident que la grande majorité des gens, des jeunes qui veulent aller au gymnasium doivent partir de chez eux pour s'en aller dans une autre ville. D'où le décrochage scolaire qui est très haut, dans le fond, et il s'explique là, parce que c'est une question d'accessibilité. Mais parce qu'on ne peut pas non plus offrir ce service d'éducation-là, même dans les plus petits villages où il y a 60, 100, 150 personnes. Donc, puis c'est comme les villages sont très éloignés un de l'autre parce qu'il n'y a pas de route entre les villages. Ça rend l'accessibilité encore plus difficile parce qu'il faut soit avoir un bateau, un avion, un hélicoptère pour se déplacer. Donc, c'est sûr que ça devient plus difficile pour les jeunes de s'en aller dans une autre ville à 16 ans. Puis, évidemment, pour les études postsecondaires, donc après le gymnasium, il y a une université maintenant qui est toute nouvelle à Nuuk, où il y a 150 étudiants. Donc, c'est pas une grosse université, mais c'est quand même une université où ils peuvent étudier en groenlandais et en danois. Ils peuvent aller même jusqu'au cycle supérieur, donc dans certains domaines. Tout ce qui est santé, par exemple, pour devenir médecin, il faut aller au Danemark pour aller étudier. Pour les Groenlandais, aller au Danemark, l'éducation est gratuite. Puis, ils ont même des bourses pour vivre là-bas et tout ça. Donc, le système est quand même assez bien fait. Il y a beaucoup de programmes pour accrocher les jeunes. Il y a beaucoup d'écoles de métiers aussi. Moi, j'ai visité, par exemple, dans le sud du Groenland, une école de métiers pour apprendre aux jeunes comment devenir un tanneur. Donc, faire la dépôt de phoque. Donc, il y a aussi une école culinaire dans le sud du Groenland parce que, bon, beaucoup de fermes et tout ça. Donc, l'école culinaire, l'agronomie, ce sont des choses très importantes. Donc, les écoles de métiers, c'est très, très fort, ça aussi. Au Groenland, même dans les plus petits endroits, on essaie d'encourager les jeunes à aller étudier. Les jeunes de moins de 30 ans, je dirais, sont de plus en plus intéressés à l'éducation. La génération de 40 ans et plus sont plus portés vers chasser, pêcher pour subvenir aux besoins de la famille. Donc, c'est plus une pensée, un mode de vie de subsistance. Alors que les 30 ans et moins sont beaucoup plus vers un mode de vie global, finalement, que sectorisé, que chacun fait ses choses, puis qu'on peut acheter un peu comme ici, finalement. C'est plus de subsistance, c'est vraiment plus une société de service, là, finalement.
Ah bon. As-tu pu rencontrer d'autres touristes? Ben, tu n'es pas une touriste, mais d'autres Canadiens, d'autres étrangers là-bas?
Oui, en fait, j'ai rencontré un groupe de journalistes là-bas qui faisait un tour du sud du Groenland au même moment où moi j'étais là. Je me suis joint à eux justement pour certaines activités. Il y avait une journaliste canadienne anglophone qui écrit d'ailleurs pour des médias anglophones du Québec et des États-Unis. Donc, il y avait elle, il y avait une journaliste du Danemark, puis deux journalistes de l'Allemagne. Et c'était un tour organisé par l'Association touristique du Groenland pour promouvoir finalement le tourisme dans le sud du Groenland.
OK. Promouvoir parce qu'il n'y en a pas beaucoup?
Oui, effectivement, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais aussi parce que le Groenland compte beaucoup sur le tourisme pour remplir ses coffres, pour amener de l'argent à nouveau. Un peu comme partout ailleurs, finalement. On veut vendre le Groenland comme une destination plein air, une destination d'aventure. On veut aussi attirer des gens qui sont prêts à payer le gros prix, finalement, pour voir la nature qui est vierge, là, finalement, qui n'a pas été touchée ou qui n'a pas été modifiée par l'humain. On met ça beaucoup, beaucoup de l'avant. Puis d'ailleurs, Air Greenland, qui appartient en partie au gouvernement du Groenland, a lancé une nouvelle route aérienne cet été qui part d'Iqaluit au Canada. Donc, qui part d'Iqaluit puis qui s'en va à Nuuk directement. C'est quand même juste une heure et demie de vol entre Iqaluit et Nuuk. Donc, si on compte, par exemple, si on partait de Montréal pour aller à Iqaluit, on dort une nuit à Iqaluit puis on va à Nuuk. C'est à peu près un vol de, au total, là, c'est un vol de 6 heures au maximum. Au lieu de, avant, on devait, ben moi ce que j'ai fait en fait, je suis allée au Danemark, puis je suis allée ensuite au Groenland, j'ai refait le vol transatlantique. Dans le fond, j'ai fait 4 vols transatlantiques en 3 semaines. Donc, c'est beaucoup plus long, c'était beaucoup plus long auparavant avec cette nouvelle route-là qui est juste en fonction pendant l'été. C'est une façon aussi pour attirer les Canadiens qui pourraient être intéressés à découvrir le Groenland.
Recommanderais-tu cette destination-là pour la plupart d'entre nous?
En fait, je dirais que le Groenland n'est pas fait pour tout le monde. Par contre, les gens qui sont prêts, qui adorent l'aventure, qui adorent le plein air, c'est une destination à ne pas manquer. Les gens qui ont aimé, par exemple, aller faire... de la randonnée pédestre, qui prennent des vacances pour aller faire de la randonnée pédestre, là, je leur recommande sans hésiter d'aller faire un tour au Groenland pour les magnifiques paysages qu'on a pour faire de la randonnée. Là. Puis en plus, ce qui est super le fun, surtout dans le sud du Groenland, tu peux partir avec ton sac à dos puis te promener de village en village à pied à travers les montagnes, à travers les glaciers. C'est magnifique. Ça vaut vraiment la peine. Moi, si j'avais pas eu un enfant avec moi, je pense que c'est quelque chose que j'aurais vraiment aimé faire, de me promener de village en village. Tu dors à un endroit, après ça, tu reviens. Ça doit être vraiment magnifique d'aller... on a fait une randonnée pédestre. Là, on s'est rendu au-dessus d'une montagne où on voyait le glacier Krohok, qui est un des glaciers les plus productifs du Groenland. Ça a été vraiment une expérience extraordinaire. Donc, je peux imaginer le reste des paysages qu'on peut faire, qu'on peut voir en faisant de la randonnée pédestre là-bas.
Ben, ça donne envie. Merci beaucoup, Marie-Ève, pour nous avoir parlé de ton expérience.
Ça me fait plaisir.